Nouvelle prophétie aujourd'hui avec Isaïe et prophétie tout à fait singulière puisque par la bouche du prophète Dieu propose à Akaz de demander un signe. Alors pour comprendre un peu de quoi il s'agit, ce serait vraiment une bonne idée d'aller regarder, d'aller lire le chapitre 7e d'Isaïe. Pour voir un peu le contexte. Et justement, on y découvre un drame pour la maison de David. Il y a un roi qui vient les attaquer. Et c'est absolument dramatique. Et on arrive à un verset que nous entendons un autre moment dans l'année, qui est la réponse de Dieu. Et Dieu dit, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. C'est juste avant notre passage. Alors il y a un jeu de son en hébreu. Imlo ta'aminu, kilo ta'amenu. Donc, vous entendez deux fois à peu près le même verbe qui est le verbe aman. Sous deux formes différentes. Il y a plusieurs formes verbales en hébreu, comme en arabe. Et l'une veut dire croire, l'autre veut dire tenir. Le verbe aman un sens tout à fait particulier en hébreu. Aman, c'est la position de l'enfant quand il est dans les bras de sa maman et que sa tête repose sur le cou de sa maman. Donc son corps est sur la poitrine de sa maman. Donc c'est un geste de grande protection, de grande intimité, de grande douceur. Et c'est dans ce contexte-là qu'il convient de prendre connaissance de la prophétie que nous entendons. Donc Dieu, dans ce contexte-là, dit « Demande-moi un signe. » Alors, Akaz dit « Non, non, je suis un type bien, moi, je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve. » Or, en fait, nous passons souvent notre temps à demander des signes, soit implicites, soit explicites, demandant que Dieu fasse ceci, ou bien « Ah, Dieu n'a pas fait cela ». Si Dieu existait, enfin, vous savez, toutes les âneries qu'on peut inventer. Là. Et là, nous trouvons dans une situation totalement inverse. C'est Dieu qui dit « Je vais donner un signe ». Alors évidemment, ça doit retenir notre attention. Et Dieu nous dit « Si vous ne croyez pas, vous n'y arriverez pas ». Donc c'est dans ce cadre-là que nous devons entendre cette prophétie. Donc il s'agit d'un acte de foi à la fois pour maintenant, le moment où cette prophétie s'accomplit, pour Akaz. Et à la fois pour plus tard, et plus tard c'est notre maintenant. C'est-à-dire que la conception immaculée de la Vierge Marie, c'est toujours l'objet de notre foi. Nous y croyons. Nous n'avons aucune idée de la manière dont comment ça peut se faire. Quoi. Ça peut même être refusé accessoirement. Donc le signe est donné par Dieu. Alors évidemment, dans le contexte de ces jours-ci, j'ai eu envie d'aller voir un peu un Targum d'Isaïe sur ce passage-là. Donc c'est le Targum de Jonathan ben Uziel, ce qu'on appelle une paraphrase chaldéenne. C'est la même chose, hein, c'est un Targum. Et c'est un disciple de Hillel. Et lui, il est né 30 ans avant la naissance de Jésus. voyez que c'est quand même extrêmement récent par rapport à la venue de Jésus, et c'est considéré comme inspiré dans la synagogue. Alors, qu'est-ce que nous lisons ? Alors, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'au chapitre, au verset 9e, le prophète dit « If ye will not believe the words of the prophet, surely ye shall not be established. » Vous voyez, si vous n'écoutez pas les paroles du prophète, vous ne tiendrez pas. Ce qui est un peu une paraphrase, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Parce que c'est pas ce qui est écrit en hébreu. Et je trouve qu'on a un écho à ce que Jésus va annoncer. Finalement, Jésus va leur dire, écoutez, vous n'avez pas écouté les prophètes et vous n'écoutez même pas ma parole. Mais c'est l'accomplissement de ce verset-là. Voyez. Et au verset 13, il dit, ô maison de David, c'est peu de choses pour vous que vous cassiez la tête des prophètes. Is it a small thing to you that ye are troublesome to the prophets, that ye refuse also the words of my God? Bon, c'est du vieil anglais, hein. Vous refusez les paroles de mon Dieu. Vous voyez, c'est les prophètes qui sont mis en cause là, en fait. Vous n'écoutez pas les prophètes. Et je trouve que c'est extrêmement important, parce que là, nous avons déjà l'annonce qu'il faut écouter les prophètes, et donc la parole de Dieu. Refus de la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu, et refus des prophètes. Alors, cette prophétie, évidemment, s'accomplit dans l'Évangile, hein, avec le bouleversant texte de l'Annonciation qui est trop connu, qui est trop mal écouté, qui est trop mal lu. Voilà, c'est un texte qui n'est pas facile à lire parce que précisément il est très très connu. Et on le lit comme si c'était une histoire, alors que c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est extrêmement mystérieux. Hein. Beaucoup de gens se disent « Oui, bon, la Vierge Marie, ça va bien. » Attends, la prophétie d'Isaïe, elle n'était pas évidente. Hein. Elle a été faite 10 siècles avant. C'est quelque chose. Alors, venons, je veux juste m'attarder un peu sur les paroles de l'ange, qui dit « Je te salue, Marie. » Alors, souvent, il est traduit réjouis-toi. Parce qu'on dit Kaïré. Ouais, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que les 4 fois où il y a écrit Kaïré dans la Passion du Christ, c'est quand on se fiche de Jésus pendant sa Passion. Salut, roi des Juifs. Vous savez, il y a écrit Kaïré. Alors, réjouis-toi. Ça me paraît un peu louche, quoi. Pour moi, c'est plutôt une salutation. Et elle est très importante parce que juste après, on a écrit Adonai Imar. Le Seigneur avec toi. C'est une phrase nominale, il n'y a pas de verbe. Alors, en grec, bon, ça donne le Seigneur est avec toi. Et ça nous renvoie à un autre livre. Et vous feriez bien aussi d'aller regarder. Dans le livre des Juges, au chapitre 6e, c'est Gédéon. La prophétie de Gédéon. Et dans ce chapitre 6e, nous entendons pour la première fois en hébreu la salutation « Le Seigneur est avec toi ». Donc, quand l'ange dit ça à Marie, immédiatement nous disons « Tiens, ça ressemble à Gédéon ». Et vous vous souviendrez peut-être que Gédéon demandera des signes avec la fameuse toison de Gédéon. Il veut que le sol soit humide, mais pas la toison. puis ensuite il veut que la toison soit humide mais pas le sol, etc. Il y a une histoire de rosée. Donc tout ça nous parle évidemment de la conception immaculée du Christ. J'ai bien dit du Christ, hein. La conception immaculée du Christ, par une mère elle-même immaculée. Et nous voyons que Marie est confuse. La confusion, c'est diatarasso. Alors figurez-vous que diatarasso, c'est un apax. C'est un mot qui n'existe nulle part ailleurs dans la Bible. Non seulement dans sa forme telle qu'il est en Luc, mais même la racine. Vous faites une recherche sur le lemma, vous verrez que il n'y a pas. Je trouve ça tout à fait intéressant. La crainte de Marie est unique. Elle est particulière. Elle est liée à l'événement. On a traduit crainte. Il faudrait peut-être aller voir d'ailleurs ce que ça veut dire dans le grec courant. Je n'ai pas fait ce travail. Il n'y a pas de... Enfin, si, je pourrais chercher. Mais j'y ai pas pensé. Voilà, situation unique, réaction unique. Verbe unique. C'est tout de même très très impressionnant. Et au fond, l'ange lui dit ne crains pas. Exactement le même message qu'à Akaz dans le livre d'Isaïe. Et Marie croit. Alors il faut noter que Marie n'a pas demandé de signe. D'où cette réalisation singulière de cette prophétie d'Isaïe. Marie n'a demandé aucun signe. C'est Dieu qui vient donner un signe. Et du coup, elle dit comment cela va-t-il se faire ? Et non pas comment cela se ferait-il ? Zacharie, il dit, attends, je suis un vieux mec, quoi. Ma femme aussi, comment veux-tu que ça se fasse ? Et Gabriel est vexé. C'était l'évangile d'hier. Hein. Et les anges, quand ça se vexe, ça rigole pas, hein, méfiez-vous. Et là, c'est pas possible, puisque je connais pas d'homme. C'est comment cela va-t-il se faire ? Comment Dieu va-t-il accomplir ce qu'il a décidé ? Voilà. Et, autrement dit, que devrais-je faire pour que Dieu puisse accomplir sa volonté ? C'est très intéressant parce que nous avons le thème de la volonté de Dieu qui va être beaucoup l'objet de l'évangile et des lectures de dimanche. Donc ça nous prépare un peu. Et là, Gabriel dit, l'Esprit Saint t'obombrera, obumbrabit, en latin. Je pense qu'on aurait dû garder le mot latin. Obombration. Parce que c'est pas l'ombre, c'est obombration. Là aussi, c'est quelque chose de particulier, oui. C'est pas le même. Et alors pour cause. Et pour cause, c'est particulier, puisque ce verbe, nous allons le trouver. La racine de ce verbe, nous allons la trouver 9 fois, 10 fois, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Dans l'Écriture sainte, à des passages tout à fait intéressants. Le premier, en Exode 40, 35. C'est l'avant-dernier verset du chapitre de l'Exode. Et qu'est-ce qu'on lit ? Alors ça, c'est... Bon, je ne vais pas dire que c'est un scoop, hein, parce que c'est connu, mais c'est quand même génial, quoi. On y lit quoi ? La nuée couvrit la tente du rendez-vous. Plutôt la tente du témoignage, hein, en hébreu. Et la gloire de Dieu emplit la demeure. Et Moïse ne put entrer dans la tente du témoignage, car la nuée demeurait. On a deux fois le verbe demeurer, et on a couvrir. Et bien c'est le même verbe. Voyez. Alors je trouve ça passionnant, parce que la présence de Dieu vient couvrir la tente du rendez-vous. De même que l'Esprit Saint viendra couvrir Marie. Première chose, Moïse ne peut plus rentrer dans la tente du rendez-vous. Marie est scellée. Nous ne pouvons plus pénétrer, fût-ce spirituellement, en Marie. Et on ne peut plus rentrer. Alors ça peut être un argument tout à fait valable sur la... scripturaire, j'entends, non pas valable, ça, mais un argument scripturaire sur la virginité de Marie, perpétuelle. Argument scripturaire. Mais c'est aussi bouleversant parce que ça veut dire que Dieu a pris possession de Marie, en quelque sorte. Et que donc nous ne pourrons connaître de Marie que ce qu'elle voudra bien nous dire. Bon, c'est mon interprétation, hein. Et puis l'autre chose très importante, c'est que c'est la fin du livre de l'Exode. Et donc, Marie vient de mettre un terme à l'Exode en recevant Jésus en elle. C'est la fin de notre Exode. C'est terminé, tout est accompli. Par l'incarnation, tout est déjà accompli. Oui, c'est une sacrée méditation à faire, quoi. L'avant-dernier verset du livre de l'Exode. Et le verset suivant, c'est « À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Dorénavant, on marche en fonction de la nuée. Et la nuée, elle est descendue sur qui ? Sur Marie, qui est devenue le temple de Dieu. Donc le peuple de Dieu. Il lui faut suivre Marie, sur laquelle repose, en laquelle repose Jésus. Et elle nous conduit justement à Jésus. Waouh, impressionnant quand même. Le deuxième verset qui a ce mot, c'est le psaume 90e que l'on dit accompli. Il te couvre de ses ailes. Tu as sous son penage un abri. Voilà, les ailes du Seigneur qui viennent couvrir. Il y a aussi le psaume 138e. Tu couvres ma tête au jour du combat. Il y a le livre des Proverbes. Et voilà, pour l'Ancien Testament. Voilà, c'est tout de même assez... c'est le même verbe pour Matthieu 17,5, à la Transfiguration. Une lune lumineuse les prit sous son ombre. Même chose en Marc. Même chose encore en Luc pour la Transfiguration. Et dans l'Apocalypse, dans les Actes des Apôtres en 5,15, l'ombre de Pierre à son passage guérissait les gens. Voilà, l'embombration de Dieu. Voilà, moi je vous laisse avec tout ça. Si vous en avez le loisir, prenez le temps d'y revenir, quoi. De relire la fin de l'Exode. Le Targum d'Isaïe, franchement, vous devez pouvoir le trouver sur Internet, parce que moi, je l'avais trouvé. Donc voilà, il suffit de taper Chaldee paraphrase, Chaldee, plus loin, paraphrase, en français. The Prophet Isaiah. Voilà, on la trouve, c'est pas de l'anglais difficile, et ça vous permet de mettre un peu le nez dedans, quoi. Voilà, je vous souhaite une super journée.